Madame Rosa avait maintenant des absences de plus en plus prolongées, et elle passait parfois des heures entières sans rien sentir. Je pensais à la pancarte que M. Reza, le cordonnier, mettait pour dire qu'en cas d'absence, il fallait s'adresser ailleurs. Mais je n'ai jamais su à qui je pouvais m'adresser, car il y en a même qui attrapent le choléra à la Mecque. Je m'asseyais sur le tabouret à côté d'elle, je lui prenais la main, et j'attendais son retour. Madame Lola nous aidait de son mieux. Elle revenait du bois de Boulogne, complètement crevée après les efforts qu'elle avait faits dans sa spécialité, et dormait parfois jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Le soir, elle montait chez nous pour donner un coup de main. On avait encore de temps en temps des pensionnaires, mais pas assez pour vivre, et Madame Lola disait que le métier de pute se perdait à cause de la concurrence gratuite. Les putes qui sont pour rien ne sont pas persécutées par la police, qui s'attaque seulement à celles qui valent quelque chose. On a eu un cas de chantage quand un proxinète qui était un vulgaire macro a menacé de dénoncer un enfant de pute à l'assistance, avec déchéance paternelle pour prostitution, si elle refusait d'aller à Dakar. Et on a gardé le môme pendant 10 jours. Jules, il s'appelait. Comme c'est pas permis. Et après, ça s'est arrangé, parce que Monsieur Ndamédé s'en est occupé. Madame Lola faisait le ménage et aidait Madame Rosa à se tenir propre. Je ne vais pas lui jeter des fleurs, mais j'ai jamais vu un Sénégalais qui aurait fait une meilleure mère de famille que Madame Lola. C'est vraiment dommage que la nature s'y ait opposée. Il a été l'objet d'une injustice. Il y avait là des mômes heureux qui se perdaient. Elle n'avait même pas le droit d'en adopter, car les travestites sont trop différentes, et ça, on ne vous le pardonne jamais. Madame Lola m'avait parfois gros sur la patate. Je peux vous dire que tout l'immeuble a bien réagi à la nouvelle de la mort de Madame Rosa, qui allait se produire au moment opportun quand tous ses organes allaient conjuguer leurs efforts dans un sens. Il y avait les 4 frères Zaoum, qui étaient déménageurs, et les hommes les plus forts du quartier pour les pianos et les armoires, et je les regardais toujours avec admiration, parce que j'aurais aimé être 4, moi aussi. Ils sont venus nous dire qu'on pouvait compter sur eux pour descendre et remonter, Madame Rosa, chaque fois qu'elle aura envie de faire quelques pas dehors. Le dimanche, qui est un jour où personne ne déménage, ils ont pris Madame Rosa, ils l'ont descendue comme un piano, ils l'ont installée dans leur voiture et on est allé sur la Marne pour lui faire respirer le bon air. Elle avait toute sa tête ce jour-là, et elle a même commencé à faire des projets d'avenir, car elle ne voulait pas être enterrée religieusement. J'ai d'abord cru que cette juive avait peur de Dieu, et elle espérait qu'en se faisant enterrer sans religion, elle allait y échapper. Ce n'était pas ça du tout. Elle n'avait pas peur de Dieu, mais elle disait que c'était maintenant trop tard. Ce qui est fait, et il n'y avait plus à venir lui demander pardon. Je crois que Madame Rosa, quand elle avait toute sa tête, voulait mourir pour de bon, et pas du tout comme s'il y avait encore du chemin à faire après. En revenant, les frères Zaoum lui ont fait faire un tour aux Halles, rue Saint-Denis, rue de Fourcy, rue Blondel, rue de la Truanderie. Elle a été émue, surtout quand elle a vu rue de Provence le petit hôtel quand elle était jeune et qu'elle pouvait faire les escaliers 40 fois par jour. Elle nous a dit que ça lui faisait plaisir de revoir les trottoirs et les coins où elle s'était défendue. Elle sentait qu'elle était bien remplie son contrat. Elle souriait et je voyais que ça lui avait remonté le moral. Elle s'est mise à parler du bon vieux temps. Elle disait que c'était l'époque la plus heureuse de sa vie. Quand elle s'était arrêtée à 50 ans passés, elle avait encore des clients réguliers. Mais elle trouvait qu'à son âge, ce n'était plus esthétique, et c'est comme ça qu'elle a pris la décision de se reconvertir. On s'est arrêté rue Frochot pour boire un verre, et Madame Rosa a mangé un gâteau. Après, on est rentré à la maison, et les frères Zaoum l'ont portée au 6e étage, comme une fleur, et elle était tellement enchantée de cette promenade qu'elle semblait avoir rajeuni de quelques mois. À la maison, il y avait Moïse qui était venu nous voir, assis devant la porte. Je lui ai dit salut, et je l'ai laissé avec Madame Rosa, qui était en forme. Je suis descendue au café d'en bas pour voir un copain qui m'avait promis un blouson en cuir qui venait d'un vrai stock américain, et pas de la frime, mais il n'était pas là. Je suis restée un moment avec Monsieur Hamil, qui était en bonne santé. Il était assis au-dessus de sa tasse de café vide, et il souriait tranquillement au mur en face.
« Monsieur Hamil, ça va ?»«
Bonjour, mon petit Victor, je suis content de t'entendre. »«
Bientôt, on trouvera des lunettes pour tous, Monsieur Hamil. Vous pourrez voir de nouveau. Il faut croire en Dieu. Il y aura un jour des lunettes formidables. » Comme il n'y en a jamais eu, et on pourrait vraiment voir, Monsieur Hamil.
Eh bien, mon petit Victor, gloire à Dieu, car c'est lui qui m'a permis de vivre si vieux.
Monsieur Hamil, je ne m'appelle pas Victor, je m'appelle Mohamed. Victor, c'est l'autre ami que vous avez.
Il parut étonné.
Mais bien sûr, mon petit Mohamed, j'ai placé ma confiance dans le vivant qui ne meurt pas. Comment t'ai-je appelé, mon petit Victor ?
Eh merde, vous m'avez appelé Victor.
Comment ai-je pu ? Je te demande pardon.
Oh, ce n'est rien, rien du tout. Un nom avant un autre, ça ne fait rien. Comment ça va depuis hier ?
Il parut préoccupé. Je voyais qu'il faisait un gros effort pour se rappeler, mais tous ses jours étaient exactement pareils depuis qu'il ne passait plus sa vie à vendre des tapis du matin au soir. Alors ça faisait du blanc sur blanc dans sa tête. Il gardait sa main droite sur un petit livre usé où Victor Hugo avait écrit, et le livre devait être très habitué à sentir cette main qui s'appuyait sur lui,
comme c'est souvent avec les aveugles, quand on les aide à traverser. Depuis hier, tu me demandes ?
Hier ou aujourd'hui, monsieur Amil. Ça ne fait rien, c'est seulement du temps qui passe.
Eh bien, aujourd'hui, je suis restée toute la journée ici, mon petit Victor.
Je regardais le livre, mais j'avais rien à dire. Ça faisait des années qu'ils étaient ensemble.
Un jour, j'écrirai un vrai livre, moi aussi, monsieur Amil, avec tout dedans. Qu'est-ce qu'il a fait de mieux, monsieur Victor Hugo ?
Monsieur Amil regardait très loin et souriait. Sa main bougeait sur le livre, comme pour caresser. Les doigts tremblaient.
Ne me pose pas trop de questions, mon petit...
Mohamed.
Ne me pose pas trop de questions, je suis un peu fatiguée aujourd'hui.
J'ai pris le livre et monsieur Amil l'a senti, et il est devenu inquiet. J'ai regardé le titre et je lui ai rendu. J'ai mis sa main dessus.
Voilà, monsieur Amil, il est là, vous pouvez le sentir.
Je voyais ses doigts qui touchaient le livre.
Tu n'es pas un enfant comme les autres, mon petit Victor. Je l'ai toujours su.
Un jour, j'écrirai Les Misérables, moi aussi, monsieur Amil. Il y aura quelqu'un pour vous ramener chez vous tout à l'heure ?
Inch'Allah, il y a toujours quelqu'un, car je crois en Dieu, mon petit Victor.
J'en avais un peu marre, parce qu'il n'y en avait que pour l'autre.
Racontez-moi quelque chose, monsieur Amil. Racontez-moi comment vous avez fait votre grand voyage à Nice, quand vous aviez 15 ans.
Il se taisait.
Moi ? J'ai fait un grand voyage à Nice ?
Quand vous étiez tout jeune.
Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas du tout.
Eh bien, je vais vous raconter. Nice, c'est une oasis au bord de la mer, avec des forêts de mimosas et des palmiers. Il y a des princes russes et anglais qui se battent avec des fleurs. Il y a des clowns qui dansent dans la rue et des confettis qui tombent du ciel et n'oublient personne. Un jour, j'irai à Nice, moi aussi, quand je serai jeune.
Comment, quand tu seras jeune ? Tu es vieux ? Quel âge as-tu, mon petit ? Tu es bien le petit Mohamed, n'est-ce pas ?
Ah, ça, personne n'en sait rien. Et mon âge non plus. Je n'ai pas été datée. Madame Rosa dit que j'aurai jamais d'âge à moi parce que je suis différent et que je ne ferai jamais autre chose que ça, être différent. Vous vous souvenez de Madame Rosa ? Elle va bientôt mourir.
Mais monsieur Amil s'était perdu à l'intérieur, parce que la vie fait vivre les gens sans faire tellement attention à ce qui leur arrive. Il y avait dans l'immeuble en face une dame, Madame Alaoui, qui venait le chercher avant la fermeture et qui le mettait dans son lit parce qu'elle non plus n'avait personne. Je ne sais même pas s'ils se connaissaient ou si c'était pour ne pas être seule. Elle avait un étalage de cacahuètes à Barbès, et son père aussi, quand il était vivant. Alors je dis
« Monsieur Amil ! Monsieur Amil !»
Comme ça, pour lui rappeler qu'il y avait encore quelqu'un qui l'aimait et qui connaissait son nom, et qu'il en avait un. Je suis restée un beau moment avec lui, en laissant passer le temps, celui qui va lentement et qui n'est pas français. Monsieur Amil m'avait souvent dit que le temps vit lentement du désert avec ses caravanes de chameaux, et qu'il n'était pas pressé car il transportait l'éternité. Mais c'est toujours plus joli quand on le raconte que lorsque l'on regarde sur le visage d'une vieille personne qui se fait voler chaque jour un peu plus, et si vous voulez mon avis, le temps, c'est du côté des voleurs qu'il faut le chercher. Le propriétaire du café, que vous connaissez sûrement, car c'est Monsieur Driss, est venu nous jeter un coup d'œil. Monsieur Amil avait parfois besoin de pisser, et il fallait le conduire au WC avant que les choses se précipitent. Mais il ne faut pas croire que Monsieur Amil n'était plus responsable, et qu'il ne valait plus rien. Les vieux ont la même valeur que tout le monde, même s'ils diminuent. Ils sentent comme vous et moi, et parfois même ça les fait souffrir, encore plus que nous, parce qu'ils ne peuvent plus se défendre. Mais ils sont attaqués par la nature, qui peut être une belle salope et qui les fait crever à petit feu. Chez nous, c'est encore plus vache que dans la nature, car il est interdit d'avorter les vieux quand la nature les étouffe lentement et qu'ils ont les yeux qui sortent de la tête. Ce n'était pas le cas de M. Amil, qui pouvait encore vieillir beaucoup et mourir peut-être à 110 ans, et même devenir champion du monde. Il avait encore toute sa responsabilité et disait « pipi » quand il fallait et avant que ça arrive, et M. Driss le prenait par le coude dans ces conditions et le conduisait lui-même au WC. Chez les Arabes, quand un homme est très vieux et qu'il va être bientôt débarrassé, on lui témoigne du respect. C'est autant de gagner dans les comptes de Dieu qu'il n'y a pas de petits bénéfices. C'était quand même triste pour M. Amil d'être conduit pour pisser, et je les ai laissés là, car moi je trouve qu'il ne faut pas chercher la tristesse.